Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, bien-aimé. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui sera pur, comme celui-là est pur. Merci Seigneur pour être présent dans nos histoires, beaucoup plus de ce que au départ nous sommes capables de percevoir. Merci Seigneur parce que en t'unissant à nous, tu nous fais devenir de plus en plus capables de comprendre ton cœur, de communier avec toi, d'attendre ce qui t'y attend pour toute personne. Donne-nous Seigneur de cet après-midi encore, nous soyons attentifs à toi, ouverts à ton action, capables de nous réjouir avec ta présence, pour pouvoir ainsi devenir témoins de toi au cœur des hommes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. Ensuite, de ce que Monseigneur nous enseignait ce matin, d'écolier de la miséricorde dans l'évangile de Saint-Luc, je voudrais continuer avec le même thème qu'on a commencé hier soir, en faisant un pas de plus de comment l'espérance et l'espérance chrétienne et l'école du cœur que, illuminée par la foi, nous permet de traverser les nuits et les blessures pour que notre amour soit semblable au sien, que notre cœur soit semblable au cœur de Jésus. Parce que, si vous vous souvenez un petit peu, la façon dont on se place devant les paroles du Seigneur n'est pas neutre. Et il y a une façon de se placer que, au lieu de nous donner ce que la parole nous propose, au lieu de faire que notre cœur vraiment avec douceur avance vers le cœur de Dieu, parfois il se trouve coincé et au lieu d'avancer il se bloque. C'est pour cela que c'est très important cette structure de l'espérance. Hier on disait, et encore je le répète ce soir, que le mystère dans lequel nous sommes et l'essence de l'espérance est la réalité de Pâques qui est déjà présente. J'adore ces sixième préface de la messe du dimanche, du temps ordinaire, dans lequel on dit que le mystère de Pâques, la vie éternelle est déjà commencée. Et nous avons reçu le premier don de l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous attendons avec espérance qu'il s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Pâque, c'est que heureuse faute qui nous a mérité un tel Rédempteur, la nuit, la mort a été engloutie dans la vie. Il y a un troisième élément que je n'ai pas dit hier, mais qui est essentiel pour comprendre la réalité sur laquelle nous sommes plongés, c'est que nous sommes devenus une seule et indivisible personne avec lui. Cette phrase étrange, ce n'est pas étrange parce que dans l'office de lecture du Samedi Saint, on la lit chaque année, le Christ, en descendant aux enfers, il ne remonte pas sans nous. Et nous sommes devenus une seule et indivisible personne avec lui, déjà. Et alors, quand on commence à réaliser ça, tout ce que le Seigneur nous dit entre dans une perspective qui ne se bloque pas en cours de route. Mais seulement dans cette perspective. C'est pour ça que le titre de cette conférence de cet après-midi, en reprenant, je ne fais que reprendre le titre des chapitres de l'encyclique du pape Benoît. C'est qu'il n'y a rien de nouveau, c'est pas que j'ai découvert des trucs incroyables, non? En tout cas, c'est le pape Benoît, le copyright est du pape Benoît, non? Mais il dit, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Et il dit, il y a des mirages qui nous empêchent de jouir la vie éternelle. Elle est déjà là, mais il y a des mirages qui font des courts-circuits et qui, au lieu de nous faire grandir, parfois, on voilà. OK? On ne fait pas des grimaces, mais... Pourquoi? Parce qu'effectivement, et ça c'est un des cœurs de cette école de l'espérance, c'est le cœur est la réalité la plus proche de Dieu que nous avons. Le cœur est hypersensible. Tu peux comprendre un truc, mais le comprendre ne donne pas immédiatement de le vivre. C'est le cœur. Et c'est là où entre le jeu de l'espérance. C'est le cœur. Mais le cœur, parfois, il est réactif. Je me souviens de ces chants de Jacques Brel, que vous connaissez tous, la première partie, non? Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps de malentendus et les temps perdus à savoir comment, oublier ces airs que tu es parfois à coup de pourquoi. Le cœur dit bonheur. Autrement dit, même si la tête a compris un tas de choses, c'est le cœur qui comprend. Et pour que le cœur comprenne, il faut un chemin qui n'est pas simplement savoir. Et c'est là l'essence de ce qu'on appelle la vertu théologale de l'espérance. Parce que le Seigneur veut nous aider à dépasser cet état du réactif. Par exemple, je peux comprendre qu'effectivement, si je suis pauvre de cœur, je serai bien heureux. Mais le cœur ne l'a pas compris. Et quand il m'arrive un problème dans la vie, je réagis, je me protège. Au cas où, alors j'accumule. Non? Et après, évidemment, cette joie de l'Évangile et de la béatitude, c'est un machin qu'on étudie à Paris-Lémonial, mais après, ben voilà, la joie. Ça s'est tombé un peu, ce machin. Voyez un peu. Est-ce que c'est de ça que peut parler l'Évangile? Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Je crois qu'il y a un problème, parce que ça ne fait que descendre. C'est ça.
Merci, voilà.
Non. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous aider à pouvoir vivre? Ce matin, Monseigneur disait une phrase que j'aimais beaucoup en parlant des premiers pendentifs, hein? Et c'était le feu. Un feu qui se consume sans détruire et qui permet qu'avec douceur mon cœur commence à participer du cœur de Dieu. Cela n'est pas automatique. Ce fait existe. Mais le Seigneur veut, par l'école de l'espérance, nous aider à nous introduire dans une perspective dans laquelle on dépasse la peur de se disloquer lorsqu'on vit l'Évangile. Comment? Voilà. D'abord, il faut dépasser l'esprit du pharisaïsme. Et ce matin, mon Seigneur, j'aimais beaucoup quand il parlait de ça, de rigorisme, pharisaïsme, l'école de Samaï, no? Vous vous souvenez? Ça aide beaucoup de reprendre, parce qu'on apprend un tas de choses, no? Qu'est-ce que c'est que l'école de Samaï? C'est l'école du volontarisme dans laquelle on tombe et on finit par tomber dans l'exigence des autres parce que mon cœur ne regorge pas de vie. L'espérance, je disais hier, c'est qu'à fur et à mesure que je m'oriente dans les perspectives que le Seigneur me dit de vivre, au lieu de commencer à réagir dans la peur, je découvre progressivement que je suis accompagné, que mon être le plus profond est dévoilé et qu'en réalité, c'est pas seulement que je suis pas seul, mais que ça correspond pleinement à ce que je suis. Cette dynamique de l'espérance chrétienne est le contraire du volontariste et du pharisaïque. Parce que il est volontariste, il se décourage en cours de route, et normalement tous les gens qui se tiennent au-dessus des autres, ils cachent sous les tapis un tas de choses. Parce que personne ne peut par soi-même être saint. Non. C'est mieux qu'on les voit. Non? Nous, les hommes, quand on vit en communauté mixte, on voit bien qu'il y a une façon de faire différente. Non? Les hommes, on balaye rapidement et on met sous les tapis tout ce qui avance. Non, non mais c'est ça. Quand tu mets sous les tapis, la joie de l'Évangile ne jaillira jamais. Jamais. C'est pour cela que cette anecdote dont je vous parlais hier, il ne faut jamais l'oublier. Crois-tu que même les plus petits des actes non évangéliques de ta vie font ou impliquent totalement la vie de Jésus jusqu'à la donner pour la tienne? Parce que lorsque tu apprends à reconnaître, paradoxalement, il commence à émerger les mystères d'amour dont nous sommes aimés. Les pharisaïques cachent sous les tapis et les pessimistes engueulent tout le monde. Et effectivement, le Seigneur, il veut nous introduire dans la rencontre d'amour de l'époux. Deuxième collier ce matin, la pièce de la femme. Parce que effectivement, si le voile de l'époux n'a pas la pièce, où est-il la relation amoureuse? Si je perds l'époux, il ne se passe rien. Et l'espérance est une école de découvrir celui qui nous aime comme l'époux. Cantique de cantique. Évoquer Jacques Brel aujourd'hui n'est pas pour faire tendre. C'est le centre même de l'Évangile. Et le Seigneur nous invite à découvrir en route que chaque fois qu'on s'oriente vers lui, on découvre dans notre intérieur qu'il est, il est présent. 1 Corinthiens 13. C'est un des textes qu'on choisit toujours dans les mariages. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, l'amour ne se gonfle pas, l'amour... Et alors toujours il y a elle ou lui qui lui dit à elle, t'as entendu quoi? Mais c'est très intéressant lire ces 1 Corinthiens 13 avec la façon dont Saint Paul les présente, qui est justement la structure de l'espérance chrétienne telle que nous sommes en train de la voir. La première partie, avant de dire les caractéristiques de l'amour, il fait référence, si je ne suis pas l'amour, je suis rien. Attention, Paul se place dans le mystère de l'être que nous sommes. Vous vous souvenez hier que j'ai parlé de l'espérance? Je m'oriente vers et je découvre que cela est l'être le plus profond que je suis. L'hymne à l'amour n'est pas volontariste. Chaque fois que vous essayez, vous lui dites à l'autre, t'as compris, non? On lui met un fardeau impossible. Non, mais dites-moi si c'est pas vrai, quoi. Pardonne tout. Ouais, écoutez, jusqu'à un certain point, hein, mais... j'en ai marre, non? Cette expression si française, non? Je l'ai jamais entendue ailleurs. Qui... j'en ai marre. Et ce qui s'en suit, bon, chaque pays c'est d'une façon différente, non? Et voilà. Ça commence par être. Et attention. Et je ne vais pas lire ici toute la première, pardon, le chapitre 13, parce qu'il est un peu long. Mais la deuxième partie, si vous regardez vos Bibles, c'est très intéressant. Une fois on a parlé des caractéristiques de l'amour, Saint Paul nous amène plus loin. Il dit, maintenant, nous voyons comme dans un miroir. Autrement dit, comme dans un brouillard. Parce qu'à l'époque, les miroirs n'étaient pas nos miroirs actuels, où l'on voit malheureusement tous les rides et tout ça, non? À l'époque, on voyait rien, non? Un truc comme ça, et peut-être c'est moi, non? Normalement, si tu étais optimiste, tu te voyais plus beau de ce que tu es, non? Et si tu étais pessimiste, tu te voyais à feu, quoi, même. Non, mais c'est ça, Saint Paul. Mais c'est très intéressant ce qu'il dit, hein? Parce qu'il dit ensuite, immédiatement, il dit, avant, nous voyons, quand nous étions petits, nous avions des pensées de petits. Quand nous sommes devenus adultes, nous voyons comme nous sommes vus. Attention à cette phrase. Nous voyons comme nous sommes vus. Nous voyons face à face. Qui? Le Christ. Et cela est le cœur même de l'espérance chrétienne telle que le pape Benoît nous invite à le lire. Il dit, si vous placez l'espérance comme dans une carotte, vous ne comprendrez rien. Si vous placez que quand vous orientez votre vie, vous vous découvrez accompagné, parce que c'est là où le Seigneur se rend présent, et en plus, vous gardez dans l'horizon que ça va déployer pleinement votre être profond, on n'est plus dans la carotte, on est dans l'espace qu'on lui offre, Seigneur, pour que notre cœur découvre sa présence vivante qui nous fait émerger de l'intérieur sa vie, sa résurrection. Est possible pour tous? Oui. Ah non, il y a certaines personnes qui disent, non, ce n'est pas pour des antélos, c'est une chose très simple. À fur et à mesure que je m'oriente vers, je suis accompagné et mon être profond se dévoile. Qu'est-ce que ça donne? Ce qu'on appelle les béatitudes, qui sont une école d'espérance qui fonde, chacune des béatitudes se fonde dans l'accomplissement par Jésus des pèlerinages de l'Ancien Testament. Et c'est ça ce qu'on va voir un petit peu maintenant. Je vous explique. Le pape, encore Benoît, j'ai fait beaucoup la pub de pape Benoît, mais c'est parce que je suis convaincu que dans ces leçons, on découvre plus profondément les merveilles de ce don François avec ses courts slogans nous invite à vivre. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que les béatitudes? Benoît disait dans le livre de Jésus de Nazareth une phrase très belle qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Puisqu'il disait, les béatitudes, ce n'est pas que Jésus fait le programme volontariste de tout ce qu'il faut vivre. Ça, c'est l'espérance mal comprise. Ça va vous faire casser la figure à tout le monde. Les béatitudes sont, attention à ça, il faut les contempler comme un amour, comme un cœur à cœur, pour comprendre un peu de quoi on parle. Les béatitudes sont que Jésus se réjouit de voir que les chemins qui se passent dans son cœur commenceront à se passer dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Autrement dit, pour comprendre les béatitudes, il faut apprivoiser les chemins par lesquels Jésus vit ça. Ça, c'est la sagesse du cœur. Ça, c'est pas la sagesse de l'intelligence qui essaye de se rattraper et qui n'est jamais rattrapée. Et c'est clé pour moi, jusqu'aujourd'hui, depuis que je le lis, c'est dans mon premier voyage à Paray-le-Monial, et chaque fois que je viens ici, je me rappelle, parce que le père Marot, qui à l'époque était le recteur de Saint-Thierre, m'a fait prêcher dans le jeudi soir, dans ces veillées qu'on fait à la visitation. Il m'a dit carrément, tu dois lire le discours de Benoît XVI en Jésus de Nazareth sur les béatitudes. Alors voilà, c'était tout déjà préfiguré par le ciel, non? Mais c'est tellement beau ça. Parce qu'effectivement, comprendre comment Jésus accomplit dans sa vie de Dieu et d'homme ce dynamisme, au lieu de nous introduire dans un programme que disloque, ou comme dans un fait qui détruit, on découvre progressivement un cœur que trouve son propre compte. Et alors, je voudrais avec vous illuminer un tout petit peu comment ça s'est fait. Alors, première béatitude, bienheureux les pauvres. Mais bienheureux les pauvres, entendu de la façon dont Jésus va nous expliquer de quoi s'agit-il. Bienheureux les pauvres signifie d'abord, entrer dans l'école dans laquelle toute la tradition de l'Ancien Testament, tous les pèlerins de l'Ancien Testament nous avaient introduit. Autrement dit, reconnaître dans les pauvretés de notre vie qu'il se cache une merveille. Je vais voir si je deviens un peu plus pauvre, non? Et j'avais des chaussettes, maintenant j'en ai une. Bon, voilà. Mais parfois, je dis le volontarisme comme ça, parce que ça, c'est complètement à côté de la plaque, non? Parce que je peux devenir plus pauvre, et après, il me tombe dessus en contretemps, et je râle comme un fou, non? C'est pas exactement ça, quoi, non? Qu'est-ce que c'est que la pauvreté? C'est une école à laquelle tous les pèlerins de l'Ancien Testament nous avaient introduits. J'aime beaucoup pour contempler ce que c'est que la pauvreté, venir à Cana de Galilée. C'est bizarre, hein? Pourquoi Cana de Galilée? Parce que Marie, tout le monde qui médite Cana de Galilée, se trouve dans le chapitre 2 de Saint Jean. Tout à l'heure, on était dans le musée de Gieron. Il y avait une image tellement belle de Cana de Galilée, on voit bien, non? Qu'effectivement, il y a Marie, vous savez, à Cana, ce qui s'est passé, non? Que le vin, c'est fini, non? Et donc, du coup, tout le monde, quand il prêche sur Marie, avec beaucoup de délicatesse, dira, Marie est une femme attentive, délicate, et elle s'est rendue compte qu'il manque le vin. Comme tous les ivrognes de Cana. Et alors, on se va. Ouais. Marie n'était pas plus attentive que les autres. Le spécifique de Marie à Cana est totalement différent. Hein? C'est, elle savait, elle était habituée, elle avait apprivoisé, comme tout l'Ancien Testament, que là où il y a un manque, c'est l'école de la surabondance de Dieu. Ça se passe, tout l'Ancien Testament, c'est cette école-là. Mais pourquoi, hier, je disais que pour entrer dans l'espérance chrétienne, il faut la comprendre comme un accomplissement qui s'est fait en Jésus et qui nous permet d'entrer dans une école dans laquelle le cœur passe du réactif à la communion profonde de cœur avec Jésus. Et c'est cette école-là dont les béatitudes se font écho. Par exemple, un exemple typique de la pauvreté. Vous allez au livre des Juges, le chapitre 6, c'est l'appel de Gédéon. Qui est Gédéon? C'est un pauvre monsieur, que c'est un grand d'Israël, hein? Mais il était un pauvre monsieur, qui, voilà, il était en train de travailler dans les pressoirs avec les grains et les blés, tout ça. Et il y a l'ange du Seigneur qui arrive. Il dit, Gédéon, avec toi, je vais libérer mon peuple. J'étais assédié par les Madianites, il ne savait plus quoi faire, il se sentait mal. Il se sentait menacé, il sentait qu'on va leur tomber dessus. Appliquez tout ça à la conscience qu'aujourd'hui, parfois, on vit. Tomber dessus, on ne sait pas quoi faire, crise totale, angoisse impressionnante. Et il dit qu'il va nous libérer de tout ça. Hein? L'ange du Seigneur, voilà. Hein? Riez, non? Ça fait rire parfois, hein? Ok? Non, mais c'est la même chose. Hein? Et l'ange lui dit, avec toi, je vais libérer Israël. Pardon, Seigneur. Moi, je suis de la tribu la plus petite de tout Israël. Je suis dans les clans les plus, dans les coins les plus perdus. Je suis rien du tout. Et tu veux libérer Israël, hein? C'est vrai que à nos pères, tu les as donné de grandes libérations. Mais depuis des années, il ne se passe rien. J'aime beaucoup ça, hein? Depuis des années, il ne se passe rien. C'est vrai que la France était la fille aînée de l'Église, mais depuis des années, ça va un peu, ça dégringole un peu, non? Chaque actualisation illumine ce qui se passe. C'est ça ce que le Seigneur veut nous introduire. L'espérance n'est pas la carotte qu'on ne sait pas si on arrivera. L'espérance, c'est que chaque fois que j'oriente mon cœur à ce que le Seigneur me dit, il commence à se passer dans mon humanité. Et mon cœur traverse la réaction pour s'ancrer dans une vérité qui est déjà là, qui est déjà commencée, mais que souvent, à coups de pourquoi et de malentendus, j'arrive pas à découvrir. Et alors, Gédéon, après on peut passer immédiatement à un autre texte que c'est encore plus beau, qui se trouve en Isaïe 62. Parce que la pauvreté dont Jésus parle n'est pas simplement n'est rien à voir. C'est Isaïe 62. Isaïe, c'est un monsieur qui était un prophète, non? Et qui a écrit, il y en avait deux ou trois, donc ça correspond au troisième Isaïe 62. Et aussi un texte merveilleux qui nous parle encore de l'école du cœur de la pauvreté. Je me